Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de Marina Alrubae, tirée de son livre qui paraît aux éditions Mazarine, Il était une voix. Marina a grandi avec deux parents sourds. Sa langue maternelle est la langue des signes. Le français parlé, elle ne l'a appris qu'à l'école. J'ai écrit cette histoire avec Gérald Massé, la réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Mes parents n'entendent pas, mais ils ont de la voix, hein.
Suzanne ! Tarek !
Je n'ai jamais compris pourquoi ils font ça, puisqu'ils n'entendent pas. Quand je suis là, j'accours pour les prévenir, en signe. Papa, maman t'appelle. Ils ont aussi inventé des astuces pour attirer l'attention. Ils font clignoter la lumière. Et moi, je fais pareil. Je me hisse sur la pointe des pieds et clic, clac, clic, clac. Je ne vais pas aussi vite qu'eux, mais c'est notre façon à nous de dire « Coucou, je suis là ». Du coup, on vit dans une valse de lumière clignotante. Il y a aussi une ampoule rouge dans le couloir, près de la porte d'entrée, qui clignote en plus du dring quand quelqu'un sonne. Mes parents me demandent en langue des signes « C'est qui ?» Je leur réponds « Je sais pas ». Alors ils collent leur index sur la bouche. Chut. Je retiens ma respiration. Un œil se colle au Judas. On ne connaît pas, on n'ouvre pas. On attend. Ils me demandent « Personne de l'autre côté ?» Je tends l'oreille, je fais « Non » de la tête. Et là, nos corps se détendent. Je peux reprendre mon souffle. Parfois, ils ouvrent la porte quand ce sont des amis, sourds comme eux. Ils se donnent des accolades, souvent bruyantes. Ils m'embrassent, ils me pincent la joue. Dans la salle à manger, je me mets dans un coin. Je fais semblant de jouer en les observant. Je vois leurs mains qui virevoltent, qui dansent dans l'air, vives, agiles. Ils rient, ils font des grimaces. J'essaye de comprendre, mais je m'essouffle à suivre leur cadence. J'en ai le tournis. Et quand ils sont partis, ma mère me dit en signe pour la énième fois. Il faut pas avoir peur de t'exprimer. En plus, t'entends. Je réponds oui pour lui faire plaisir. Mais je ne comprends pas ce qu'elle attend de moi. Tu entends? Oui, j'entends. Les bruits, les sons, pas comme eux. Mais ça sert à quoi de parler avec des mots alors que je parle déjà avec mes mains? J'ai 3 ans et je sais qu'il existe un monde parallèle. Le monde des gens qui parlent souvent fort. Et ce monde m'effraie, trop bruyant. Ces gens, je les vois surtout quand on va faire des courses dans le grand magasin. La musique est trop forte. Je me bouche les oreilles, je me ferme les yeux. Et là, mon père me tape sur l'épaule. Pourquoi tu fais ça? C'est pas joli? Je me sens incapable de lui expliquer le vacarme et tout le reste. Mais quand je rentre à la maison, je fonce dans ma chambre, je colle mon petit lapin bleu contre moi, je monte sur mon lit avec son dessus de lit qui me gratte, le bruit de mes oreilles s'atténue, les gens qui parlent trop fort n'existent plus, et je sombre dans le sommeil. Chut. Mais à 3 ans, j'ai beau les écarter, les parlants font de plus en plus de bruit. Ils envahissent mon espace. Des parlants, mes parents en reçoivent de plus en plus. Ils veulent qu'on les appelle tonton ou tata. J'arrive à les identifier par leur prénom, mais je refuse de les prononcer. Ma mère me signe. Mais parle, toi qui entends et pas moi. Tu entends. Je fais non de la tête et je cours m'enfermer dans ma chambre. À cette époque, un bébé se glisse dans notre vie. Je n'ai rien compris. Il était dans son ventre, et puis un jour, il est dans ses bras. Bon, mon père et ma mère me le présentent avec leur voix.
Franck ! Franck !
Qu'est-ce qu'il crie, Franck ? Je vais tout de suite prévenir maman. Franck pleure. Elle me répond. Laisse-le, il va s'arrêter. Mais ses pleurs me font mal aux oreilles. Ma mère n'est pas souvent tranquille en ce qui concerne Franck. Elle va souvent vérifier qu'il respire toujours, surtout la nuit. Elle se penche au-dessus de son lit. Elle pose sa main sur sa poitrine. Et là, je vois sa figure qui se détend. Ma mère me dit « Bientôt, il faudra aller à l'école. » Et elle ajoute « Tu seras avec d'autres enfants qui entendent comme toi, c'est bien. » Je ne sais pas pourquoi elle insiste comme ça sur le fait que j'entende. Ça semble si important pour elle. Quand je rentre à l'école maternelle, je me rends compte que tout le monde parle, sauf moi. Je ne veux pas. Le monde devient tout d'un coup trop grand. Et donc je me renferme sur moi-même. Et maintenant, je dois avoir 5 ans. C'est ma dernière année à l'école des tout-petits. C'est la récréation. Les enfants jouent autour de moi. Moi, je suis assise contre un mur. Je ne veux pas me mêler à eux. Je ne sais pas parler comme eux. Et de là où je suis, je vois la fenêtre de notre appartement, au 5e étage. Alors j'attends, parfois c'est long, et maman apparaît. Elle vient me faire des grands signes de la main à chaque récréation. Et moi, je secoue la mienne du plus fort que je peux. Je cours vers la grille blanche et je lui fais signe. « Coucou maman, coucou, viens me chercher, viens !» Et elle me répond en amplifiant les gestes pour que je la voie. « Ne reste pas seule, joue avec les enfants !» Je secoue la tête, mais elle insiste. « S'il te plaît, vas-y !» Elle m'envoie un dernier baiser. Elle ferme la fenêtre. Mes lèvres tremblent. Je sens les larmes m'envahir. Je me retourne. Il n'y a plus personne dans la cour. À la maison, beaucoup de choses ont changé. Franck a grandi, maintenant je peux jouer avec lui. On se chamaille, on s'amuse bien. Il commence même à utiliser les signes. Et je vois le ventre de ma mère s'arrondir à nouveau. Un nouveau bébé va arriver. Une petite sœur, Nadia. J'ai 6 ans maintenant. Et je viens de rentrer en CP. La maîtresse vient vers moi. Elle me dévisage longuement. « Tu sais écrire ton prénom ?» Je ne réponds rien. J'ai peur de parler, de mal parler. « Tu le sais ou pas ?» Et là, la peur grandit en moi. Je reste muette. Tu devrais pourtant. Et là, au tableau, elle attrape une craie. Ça s'écrit comme ça, hein? Tu sais ou pas? Eh ben, dis donc. Elle pose la craie. Elle secoue ses mains pleines de poussière blanche et... Elle m'a déjà oublié. Et moi, je reste pétrifié avec une boule dans la gorge. Mais je ne veux pas pleurer. À la maison, on communique par signes. Mais on n'écrit jamais. Je comprendrai plus tard que c'est compliqué d'écrire pour les sourds. La langue des signes a sa propre grammaire qui n'a rien à voir avec celle de l'écrit. Écrire pour un sourd, c'est comme accéder à une autre langue. Et donc je dois apprendre une nouvelle langue. J'ai tout à apprendre. Mais bon, tous les jours, je fais des progrès.
Marina, à toi de lire.
Je redoute ce moment. D'un coup, ma nuque se raidit, mon cœur bat vite.
À toi de lire, Marina, on t'attend.
Ma gorge se serre. Le livre est devant moi, mais je ne sais pas ce que je dois lire.
C'est ici. Allez, lis.
Et là, j'arrive à lire, oui. Mais dans ma tête, aucun son ne sort de ma bouche, aucun. Je regarde la maîtresse. Oh, j'aime pas son regard.
Bon.
Pourtant, à la maison, je m'entraîne. Je parle à voix haute, toute seule dans ma chambre. La voix hésite, elle est faible, mais j'y arrive. Mais jamais devant les autres. Le soir, maman veille à ce que je fasse mes devoirs. Et quand je lui montre des exercices écrits dans les livres, elle fronce les sourcils et elle m'explique en langue des signes. « Je sais pas, je ne peux pas t'aider. » C'est compliqué pour elle aussi, les mots, le sens. Alors elle me rend le livre et je vois bien que ça la chiffonne. Et puis la catastrophe arrive. Mes parents ont appris que je ne parlais pas et que je ne lisais pas à voix haute devant la maîtresse. Alors ils m'envoient voir un spécialiste de l'oreille. Moi, je ne vois pas le rapport. Et je me retrouve donc dans une petite cabine, avec un casque sur les oreilles. J'entends les sons, un coup aigu, un coup grave. Le docteur m'a dit d'appuyer sur un bouton. Mais moi, je ne veux pas. Je n'y arrive pas. Après, elle veut me faire parler, dire un son, juste un seul. Elle fait défiler des images. Dis-moi le mot qui correspond à cette image, Marina. Je reste muette. Maman me regarde de plus en plus inquiète. Et là, elle pose sa main sur mon bras. Elle le serre très fort et elle signe. Parle, s'il te plaît. Je lis tellement de tristesse dans ses yeux. Je ne veux pas les rendre tristes. C'est un dessin d'un engin immense qui s'élance vers le ciel. Alors je dis,
grue ?
Oui, c'est ça, c'est une grue. Je vois le visage de mes parents se détendre. Ils m'ont vu remuer les lèvres. C'est bien, me signe maman. Moi, j'ai juste envie de pleurer. La sensation, en parlant, de les trahir, de passer dans le camp adverse, celui des entendants. Et la langue des signes dans tout ça, hein? Tout ce qu'ils m'ont transmis, tout ce qu'ils m'ont appris, on en fera quoi? Ça comptera, ça? Si je me mets à parler, je vais les perdre. Mais j'ai décidé de me mettre à parler pour eux. Mais il faut corriger mon élocution. Je parle mal. Alors on m'envoie chez une orthophoniste 3 fois par semaine. Mais à l'école, ça n'est pas encore ça. J'écorche les mots, je les abîme. Par exemple, pour dire chaise. Une caisse ? Comme mes parents quand ils parlent. Ils déforment les mots. Et moi, je dois les apprivoiser. Là-dessus, le téléphone arrive à la maison. Comme dit mon père, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. On l'installe dans la salle à manger, sur l'étagère, derrière la porte. Je n'aurais jamais pu imaginer, du haut de mes 6 ans, que ce téléphone allait conditionner le reste de ma vie. Mon père, Tarek, est d'origine irakienne. Il est tailleur, c'est-à-dire qu'il fait des vêtements. Il travaille pour un Yougoslave. Et un jour, je l'entends dire à ma mère dans la cuisine, « Mon patron ne m'a pas payé. » « Il exagère, dit ma mère. Il profite que tu sois sourd. Il faudrait l'appeler. Mais qui ? Les voisins ? La famille ? Ah non, trop gênant. » Et moi, je leur dis, « Moi, je peux appeler. » Comme on dit chez les entendants, je les ai scotchés. Je les sens confus, mal à l'aise. On verra. On va réfléchir. Quelques jours plus tard, maman me lance. Tu peux ? Tu es sûr ? Papa sort une feuille de papier, il me griffonne le numéro. Et là d'un coup, je sens mon cœur battre très fort. J'avale ma salive de travers. Je sais pas trop là. Je m'approche du téléphone. Je décroche.
Allô ?
Sa voix m'impressionne. Elle me coupe le sifflet.
Allô ?
Oui. Oui, allô ?
C'est qui ?
Oui, voilà, je voulais, c'est pour papa.
Tu es la fille de Tarek ?
Oui. J'ai peur de parler. Je me corrige comme j'ai appris chez l'orthophoniste, mais je bafouille. Et il veut savoir pour quand il va toucher l'argent.
Dis-lui demain, d'accord ?
Je suis essoufflé, comme si j'avais couru un sprint. Mon père lève le pouce, il m'embrasse très fort. Je suis fier. C'est comme si j'avais grandi d'un coup, comme si j'avais pris de l'importance. J'ai trouvé le moyen de faire entendre leur voix à travers la mienne. Le lendemain, papa revient à la maison avec le chèque. Et c'est comme ça que je deviens petit à petit l'interprète de mes parents. Chez le médecin, par exemple, c'est pas toujours facile, hein. Marina,
Demande à ta mère si elle a des difficultés à aller à la selle.
Selle ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une selle de cheval.
Vous pouvez répéter ? J'ai pas compris. Ha ! À la selle, c'est l'envie ou pas de faire caca aux toilettes. Demande-lui si elle y arrive.
J'aimerais tant avoir un dictionnaire pour comprendre les médecins. Ils ont du mal à se mettre à mon niveau. C'est aussi moi qui gère la paperasse administrative. En général, c'est ma mère qui ouvre les enveloppes, elle déplie la lettre, elle la lit, et là je vois son visage qui se décompose. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Alors je contacte l'administration par téléphone.
Bonjour. J'appelle pour mes parents qui sont sourds. Nous avons reçu un papier. On comprend pas très bien. Vous pouvez nous renseigner ?
Mais quel âge as-tu ?
J'ai 8 ans et demi. Dis, maman, comment tu faisais avant moi pour te débrouiller ?
J'allais sur place pour prendre rendez-vous. J'y passais mes journées parfois. Mes parents ont aussi du mal à écrire. Alors ils ont acheté un livre, un guide, 200 modèles de lettres. Avec, je me mets à écrire des centaines de lettres qui se terminent par « mes salutations distinguées » ou « mes sentiments les plus respectueux ». Maman recopie mon brouillon et elle me le fait relire.
« C'est bien ?»
Je confirme, avec un sourire. Je m'arrache à la réalité grâce à la télévision. Le mardi soir surtout, la dernière séance d'Eddie Mitchell.
Amis de la dernière séance, bonsoir. À votre programme ce soir, deux westerns.
Maman me signe. Il existait quand j'étais toute jeune. J'étais amoureuse de lui. Il est très beau. Mais elle ne l'a jamais entendu. Mais elle aime sa façon de bouger, sa manière de s'habiller, sa coiffure banane. Et moi j'aime sa voix, grave et rassurante. Et à chaque fois qu'on regarde la télé, ma mère me dit...
Ça va ? C'est pas trop fort la télé ? Il faut pas déranger les voisins ? Ils vont pas être contents ?
J'ai un rapport très particulier à la langue française. Je la vis comme une langue étrangère. Ma vraie langue maternelle, c'est la langue des signes. Trouver le mot juste. Exprimer la précision de ma pensée, c'est un exercice épuisant. J'ai 9 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais j'ai la sensation de ne pas en avoir fait assez. Pour mes parents, comme pour moi. Avant de parler, par exemple, je continue de me représenter les mots mentalement. Fourchette, je vois une fourchette. Pain, je vois un pain. Arbre, je vois un arbre. C'est plus compliqué quand ce sont des concepts. Amour, par exemple. Et ben là, je m'imagine dans les bras de mes parents. Et pour espoir, je m'imagine dans l'attente de déguster une glace à la vanille. Mais quand c'est des mots comme constitution, par exemple, et ben là, mon cerveau bloque. À 9 ans, je me mets à traduire à mes parents le journal télévisé. À l'époque, il n'y a pas de sous-titres. Du coup, mes parents font un va-et-vient entre la télé et moi. Comme s'ils assistaient à un match de tennis. Il dit quoi ?
6 erreurs pour une catastrophe. Moscou révèle comment s'est produit l'accident de Tchernobyl. C'est une expérience qui a mal tourné.
Il dit que les particules se sont arrêtées aux frontières françaises. C'est un menteur. Les particules n'ont pas besoin de passeport pour entrer sur notre territoire. Je suis fier d'être l'interface qui les relie au reste du monde. L'autre jour, une voiture est rentrée dans celle de mon père. L'homme sort de la voiture, furieux, en costard-cravate, petite lunette ronde.
« Et enfoiré, ben ! Ça va, connard ?»«
Mon père est sourd, monsieur. »«
Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des sourds ? Ça devrait pas conduire, un sourd. »
Il faut faire un constat. Et c'est moi qui remplis la partie qui nous concerne, parce que papa sait reconnaître les lettres, mais il ne comprend pas les mots.
Il faut qu'il signe, de son nom.
Mon père regarde le papier, et là son visage se ferme. Et il fait signe, ça va pas la tête. Il me dit, Je suis sourd, mais je suis pas bête. » Et il me montre le dessin sur le constat. L'homme veut nous faire porter la responsabilité.
« Non, il signera pas. »«
Comment ça, il veut pas signer ?»« Mais si, il va signer. »«
Non, il faut refaire le dessin. Sinon, il signe pas. »
Mon père me fait signe. « Laisse tomber, on s'en va. On ira ensemble chez l'assureur demain pour lui expliquer. » Et là, l'autre se met à hurler.
« Je suis médecin, hein ? Si j'en avais le pouvoir, ben j'interdirais aux sourds de conduire. Ce sont des handicapés. Les handicapés conduisent pas. Vous m'entendez ? J'interdirais tout. »
Et là, mon père le gratifie d'un joli bras d'honneur, un signe international compris de tous. J'ai 10 ans maintenant. Et souvent, ma mère m'envoie chez sa sœur, Mietka, pour le week-end, les petites vacances, pour m'habituer à m'entourer d'entendants. Et Mietka me dit
« Alors, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?»
Et là, je pense au formulaire que je remplis pour ma mère, à tous ces brouillons de lettres.
« Je veux être secrétaire. »
Ça me semble dans la logique des choses. Elle fait une petite moue.
« Oui, c'est bien. Tous les métiers ont leur utilité. » Mais tu n'as pas pensé à autre chose? Par exemple, et si tu devenais journaliste? Pourquoi journaliste? Eh bien pour raconter le monde, pour faire entendre la voix des autres.
Et après, plus les jours passent et plus j'y pense, faire entendre la voix des autres. Eh bien ça y est, j'ai 18 ans, j'ai eu mon bac et je viens d'intégrer une école de journalisme. Et maintenant, c'est mon frère et ma sœur qui ont pris le relais auprès de mes parents pour les traductions, pour les dossiers administratifs. Je me retire, je leur laisse la place. Et à partir de là, rien ne se passe comme prévu. Quelque chose en moi part en vrille. Un mal-être qui grandit chaque jour jusqu'à envahir mon existence. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Tout me touche. Tout me fait pleurer. Et un matin de novembre, je craque. Je n'arrive pas à me lever de mon lit. Mes parents s'en aperçoivent, ils sont inquiets. « Ne fais pas de bêtises !» me dit ma mère. Je vais voir un psychiatre, il m'écoute à peine.
« Vous faites une dépression, hein ? Je vais vous prescrire des antidépresseurs, des médicaments. »
Je déchire son ordonnance en sortant. Hors de question de prendre des médicaments. Ça a duré 2 ans, comme ça. Et j'ai découvert en moi une fragilité, une tristesse, à force d'avoir été occupé à faire entendre la voix de mes parents. Eh bien, je suis devenu sourde à ma propre voix, à mes besoins, à mes ressentis. Alors j'ai touché le fond du puits, j'ai donné un bon coup de pied, et petit à petit, je suis remonté à la surface. Une psychologue a fini par me donner la clé.
Vous savez, Marina, vous avez été en hypervigilance, hein, tout le temps, sans vous laisser de répit. Vous aviez toujours des problèmes à anticiper, à régler. Vous avez porté sur vos épaules trop de pression, hein, trop d'obligations. Combattre sans jamais rien lâcher, c'est épuisant, hein, c'est usant. Et à un moment donné, ben, votre corps a lâché et il a dit stop.
Elle a raison. J'ai toujours eu peur de décevoir, toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé si je ne passais pas à l'action. J'ai dû être forte en toutes circonstances. Absurde croyance. Je vous rappelle le livre dont est tirée cette histoire. Il était une voix, de Marina Al-Rubaé, aux éditions Mazarine.
Vous avez aimé cette histoire ? Christophe Ondelatte vous propose de la débriefer avec un invité dans un podcast d'ores et déjà disponible sur votre application.